Bonsoir à tous et à toutes. Je suis heureux de vous accueillir. Je suis Alain Thomasset, donc le doyen de la faculté de théologie. Heureux de vous accueillir dans cette soirée théologique avec le père Étienne Véteux. Je le présente brièvement, même s'il est bien connu dans la maison, puisqu'il a enseigné la philosophie, je ne sais pas pendant combien d'années, pendant 12 ans. Ah oui, ça laisse des traces. Voilà, donc il a enseigné la philosophie ici, au Centre Sèvres. Il est maintenant professeur de théologie, comme c'est un homme complet, à l'université grégorienne à Rome. Il est membre de la communauté du Chemin Neuf, prêtre, et je signale qu'il a fait sa thèse sur les mystères du Christ, pour mieux comprendre la Trinité, hein, du Christ à la Trinité. Penser les mystères du Christ après Thomas d'Aquin et Balthazar, une thèse publiée au CERF dans la collection Cogitatio Fidei en 2012. Et il a également co-édité avec Blandine Lagrue La vérité dans ses débats, dans ses éclats, pardon. Mais la vérité se débat aussi. Oui, ce serait Foi et raison. Voilà, publié aux éditions Ad Solem en 2014. Et puis, il faudrait citer beaucoup d'articles qu'il a écrit, notamment sur l'Esprit Saint, qui est la recherche actuelle, foi et raison, l'humanité du Christ, la résurrection, etc. La vie religieuse aussi. Voilà. Donc beaucoup de. Le père Étienne Véteux enseigne actuellement l'anthropologie théologique. Et donc ça nous amène tout droit à notre sujet d'aujourd'hui, celui qu'il a souhaité développer ce soir. Solidarité dans le péché, solidarité dans la grâce. Repenser théologiquement le rapport individu-communauté. Voilà. Évidemment, un thème très important pour aujourd'hui dans l'anthropologie en général et en particulier dans l'anthropologie chrétienne. Voilà. Donc, je vais lui laisser la parole. Le père Véteux, donc, va développer sa conférence et puis nous aurons un temps de questions pour partager nos réactions, nos questions avec lui largement. Voilà. Je lui laisse la parole.
Merci Alain. Je pense que la vérité dans ces ébats, ce sera le tome 2. je ne veux pas amoindrir au départ la portée de la conférence. Ce n'est pas une bonne manière de commencer, mais pour moi, il s'agit d'un point de départ de recherche qui serait à approfondir. Donc, c'est plutôt poser quelques bases, un questionnement, quelques premières réponses d'auteur du XXe siècle, et puis dans la conclusion, ouvrir à des perspectives de recherche. Le point de départ de la réflexion peut être biblique dans un sens, c'est notamment la phrase de Jésus à Paul sur le chemin de Damas, « Saoul, Saoul, pourquoi me persécutes-tu ? » À ce moment-là, Paul comprend que le Christ est vivant, qu'il est ressuscité, mais il comprend en même temps que de toucher un des frères, un des petits, c'est toucher le Christ. Pourquoi me persécutes-tu alors que tu persécutes les chrétiens ? Donc, toucher un des frères, un chrétien, c'est toucher le Christ. La question c'est, qu'est-ce qui permet de dire cela ? Qu'est-ce qui permet de dire quand on touche un petit, on est en train de toucher le Christ ? Et inversement, autre réalité fondamentale dans les Écritures, le Christ est mort pour nous. Un homme est mort pour tous. Comment est-ce possible qu'un homme meure pour tous ? Et c'est vrai aussi, la question se pose aussi d'un point de vue strictement anthropologique, ou plutôt du point de vue des relations entre les hommes. Qu'est-ce qui fait, par exemple, que l'on puisse parler d'une transmission du péché originel ? Le Concile de Trente dit que le péché est transmis par propagation et non pas par imitation, pour devenir propre à chacun. Qu'est-ce qui permet que le péché d'un seul, ou éventuellement de l'origine, si on veut, puisse atteindre tous les hommes d'une manière ou d'une autre ? Mais je vais continuer, la question rebondit sur d'autres plans. Comment est-ce possible de dire oui à la place de quelqu'un d'autre ? Est-ce possible ? Normalement non. Et pourtant, c'est ce que nous faisons. Dans le baptême, un baptême d'enfant, les parents, la profession de foi des parents se fait au nom d'eux. Marie, selon Thomas d'Aquin et tant d'autres, dit oui au nom de toute l'humanité, au moment où elle dit oui à l'Annonciation. Et ceux qui vivent dans une famille ou dans une communauté, donc déjà en disant cela, je pense que je couvre pratiquement tout le monde ici, vous voyez que très souvent, un petit oui donné ou pas donné, justement, permet aux autres de passer ou de ne pas passer, ou empêche les autres de passer. Qu'est-ce qui fait cela ? Au fond, la doctrine chrétienne présuppose une solidarité profonde entre les individus, entre les êtres humains. Et pas simplement la doctrine chrétienne, donc je vais faire rebondir la question. La première partie, c'est poser la problématique. C'est vrai aussi pour les liens naturels qui nous unissent, ou les liens sociaux qui nous unissent. Pas simplement les liens de foi ou les liens théologaux. Est-ce qu'une famille, c'est simplement un agrégat d'individus? Ou est-ce qu'il y a des influences profondes qui finalement dépassent simplement le niveau psychologique ou le niveau affectif et qui font que ce, entre générations ou à l'intérieur d'une même génération, il y a une solidarité, un effet des uns sur les autres, une influence des uns sur les autres. Est-ce qu'on peut dire quelque chose? Et du coup, derrière, il y a la question, est-ce que c'est un agrégat d'individus ou bien est-ce qu'une famille, c'est une réalité? Est-ce que le mot désigne une réalité quasi ontologique? Même chose pour le peuple. Qu'est-ce que c'est qu'un peuple? Est-ce que c'est simplement une collection d'individus? Ou est-ce qu'il y a une réalité derrière ce mot? Peuple, nation, humanité tout entière? Vous voyez aussi les dangers qu'il y a derrière cette question. Mais à la fois pour penser la doctrine chrétienne et la réalité de l'Église, et pour penser des liens entre les individus dans la société qui ne soient pas simplement évanescents, il semble qu'on soit conduit à poser une solidarité profonde entre les individus. Alors classiquement, parce que la question à ce moment-là, c'est comment la fonder ? Comment fonder ce genre de solidarité ? La réponse classique chez les pères de l'Église, c'est l'unité de tous en Adam. Et puis philosophiquement, c'est l'unité de la nature humaine. Nous sommes d'une même nature, et donc il y a une influence mutuelle les uns sur les autres. Je peux citer, parmi d'autres, Théodore de Maupassant, si je retrouve la citation, bien sûr. « Le principe de la vie présente pour tous les hommes est Adam, et ainsi, selon notre nature, nous formons tous un unique être humain, puisque chacun est de manière égale un membre du genre humain. » Il y a quand même un problème avec cette manière de poser les choses, c'est que le péché, par exemple, mais aussi un oui donné, ou le salut, ce sont des réalités très personnelles. Le péché est une réalité personnelle, c'est une réalité qui touche à notre liberté personnelle. Le salut est une réalité aussi de liberté, une réalité personnelle. Est-ce que l'unité de la nature peut expliquer une transmission de ce genre ou une solidarité de ce genre ? Et la difficulté redouble avec la modernité, au moins sur deux plans. D'abord l'idée de nature, en traction si on veut. C'est-à-dire que c'est très difficile dans la philosophie contemporaine de penser une nature comme étant une réalité ontologique, comme étant autre chose qu'une réalité biologique ou une réalité culturelle, mais autre chose qu'une sorte de flatus vocis. Non, on a du mal à penser une nature comme ayant un effet, comme étant un principe. Et puis, encore peut-être plus fort, c'est la splendide, je dis splendide, c'est une chance, la découverte, le dévoilement de l'autonomie du sujet. Nous sommes des êtres profondément personnels, uniques, libres. Cela vient avant la société, dans un sens. C'est un trésor de la modernité. Alors, en même temps, c'est un trésor de la modernité occidentale. C'est vrai que dans beaucoup de sociétés autres qu'occidentales, on voit que le lien entre les individus continue à être pensé de manière très forte. Un pays, une nation, un peuple, une famille, c'est une réalité très forte. Le paradoxe, c'est que le trésor de l'autonomie du sujet, devrait être pour tous, là je prends position en fait dès le départ, devrait être pour tous, mais sans que l'on perde la solidarité. Et le paradoxe, c'est que quand d'autres cultures intègrent cette notion occidentale du sujet autonome, pratiquement toujours il y a cette perte de la solidarité entre tous, d'un tout plus grand premier englobant. Donc la question de cette conférence, c'est comment tient-on les deux ensemble? Ou peut-on tenir les deux ensemble? Peut-on tenir une solidarité de tous, mais qui respecte, même promeut, la liberté individuelle, l'autonomie du sujet? Est-ce possible? Est-ce possible de tenir les deux ensemble? Les deux clés que je vais employer, en suivant des auteurs, c'est d'une part retravailler philosophiquement, non plus une philosophie de la nature, mais une philosophie de la liberté. Et puis, et peut-être que c'est la clé plus déterminante, reposer la question d'un point de vue théologique. Vous avez vu que la question est posée d'un point de vue théologique au départ, mais la réponse est philosophique, nature. Mais il faudrait aussi une solution théologique à la question théologique. Et qui sera, je vous donne déjà, ça sera fait, l'unité de tous les hommes en Christ et dans la vie trinitaire, c'est-à-dire dans un lieu où chacune des personnes est en parfaite communion avec les deux autres ou avec les autres, et où il y a une compénétration des personnes. Alors, trois auteurs me serviront de guide, Bulgakov, Rahner et Balthazar. Ils ont davantage travaillé à partir de la question de la transmission du péché originel, mais pour répondre à la question de la transmission du péché originel, ils ont été tous les trois obligés de penser une solidarité plus profonde et globale sur tous les plans. Et voilà, ils vont nous accompagner sur ce parcours. Bulgakov. D'un point de vue philosophique, Bulgakov reste très classique. Pour lui, il y a une unité philosophique des hommes qui est une unité de nature. Donc là, il n'y a rien de nouveau dans un sens. Il tient juste à préciser qu'il a le même compte, puisqu'il écrit dans les années 30, c'est surtout dans l'ouvrage qui s'appelle « L'épouse de l'agneau » qu'on trouvera des éléments. Bulgakov explique qu'il tient bien à la conception des pères, de la nature selon les pères, c'est-à-dire pas simplement une conception empirique, descriptive, mais réellement un principe de fond, quelque chose qui puisse agir et qui puisse nous unir. Et c'est parce que nous avons cette unité de nature que tout ce qui affecte une personne peut affecter les autres. Et donc, on peut penser un mal héréditaire. Mais il se rend bien compte du problème que nous avons posé, c'est-à-dire le péché est une réalité morale, personnelle. Donc là, je n'ai rien de nouveau, je répète ce que j'ai dit dans l'introduction, mais c'est le problème que se pose Bulgakov. Comment va-t-on envisager que quelque chose de ce genre puisse être transmis? Comme il pense derrière en grec, donc il pense en russe, mais il y a le vocabulaire grec qui est derrière, il dit, comment est-ce possible que les hypostases humaines, que les personnes humaines, mais que les hypostases humaines puissent communiquer entre elles. Et communiquent non pas au niveau simplement psychologique, mais du point de vue de l'hypostase elle-même. Alors, en posant la question, il donne déjà la solution, puisque hypostase d'une seule nature, plusieurs hypostases d'une nature, vous avez compris, c'est trinitaire. C'est trinitaire. Et donc sa réponse, c'est de dire... le modèle de l'humanité, c'est la Trinité. Le modèle de la personne humaine, c'est la personne trinitaire. La personne trinitaire est une ou trois hypostases dans une nature. Nous sommes plusieurs de nombreuses hypostases dans une nature. La personne, il y aura trois ou quatre points. Plusieurs hypostases dans une nature. Les hypostases trinitaires se donnent les unes aux autres. Ceux qui connaissent Bulgakov, vous savez que derrière il y a la question de la kénose des personnes divines. Les personnes divines se donnent les unes aux autres. Elles sont elles-mêmes parce qu'elles se donnent. Et donc, c'est le modèle pour la personne humaine. Et puis, troisième point qui est probablement le plus important, les hypostases divines sont transparentes les unes aux autres. Elles sont transparentes les unes aux autres. Alors, ils n'osent pas le dire, mais il me semble qu'il s'agit de la périchorèse ici. Donc, du fait que, en Dieu, chacune des personnes est intérieure aux deux autres. Pas simplement en communion avec les deux autres, mais chacune des personnes divines est intérieure aux deux autres. C'est ce qu'on appelle la périchorèse. C'est le modèle de la personne humaine. La personne humaine devrait être une hypostase d'une nature une, devrait se donner pour être soi-même et devrait être en transparence. Et c'est possible parce qu'il y a la Trinité. Alors le problème, c'est que pour le moment, on comprend que c'est possible, mais on ne comprend pas comment ça se fait. Donc, je ne sais pas, j'espère que vous vous dites, mais oui, mais comment ça se fait? Ben, c'est très simple, c'est en Christ. C'est en Christ. Le Christ effectue, il fait que cela advienne. Mais de nouveau, pourquoi le Christ peut le faire? C'est parce qu'il est lui-même une hypostase divine. Le Logos incarné est une hypostase divine, et donc, comme il est une hypostase de ce genre, transparente, livrée, il peut accueillir en lui tous les individus humains. C'est clair, le raisonnement est clair, il peut accueillir en lui tous les individus humains, et les individus humains en lui acquièrent cette qualité, sont rendus transparents les unes aux autres, sont rendues transparentes les unes aux autres. Et c'est pour cela, finalement, que le péché peut se transmettre, que la grâce peut se transmettre, que l'on peut dire oui pour un autre, et surtout, parce que c'est le point fondamental, que le Christ, en assumant la nature humaine, peut assumer tout homme et unifier tout le genre humain en lui. Donc, le passage opéré par Bulgakov me semble fondamental. Finalement, la solidarité n'est pas d'abord une solidarité de nature, mais d'abord une solidarité en Christ et dans la Trinité, donc une solidarité de grâce. Et cela va rendre possible une solidarité de nature. Il y a une forme de circularité, d'antériorité mutuelle. C'est-à-dire, Bulgakov dit bien, le Christ pouvait assumer tout homme en assumant la nature humaine parce que il est le Christ. Ça, il rend assumable toute l'humanité. Je suis allé trop vite. Le Christ pouvait assumer tous les hommes parce qu'il a une unité de la nature humaine. Mais cette unité de la nature humaine, fondamentalement, est basée sur le fait que tout homme est assumé en Christ. Il y a donc un mouvement circulaire d'antériorité mutuelle. C'est plus clair comme ça, parce que c'est vraiment comme ça que c'est, donc pour Bulgakov. Et alors, pour moi, c'est un passage assez fondamental, parce que on trouve un équilibre nouveau entre philosophie et théologie, ou plutôt, Bulgakov fait entrer la théologie comme critère, donc comme paramètre, comme principe. Par contre, il me semble qu'il y a deux limites, au moins. La première limite, c'est que, j'ai pas pu trop l'expliquer, mais on voit que Bulgakov pense le péché originel comme une faute. Et est-ce que réellement on peut recevoir une faute d'un autre? C'est-à-dire que, voyez, le problème est clair. Est-ce qu'on peut réellement recevoir la faute d'un autre? Est-ce qu'il ne faut pas repenser la notion de péché originel? Et puis l'autre question, c'est pas une question, c'est un paradoxe. Je ne sais pas si vous avez réagi là-dessus, mais ça veut dire que puisque c'est d'être dans la vie trinitaire et en Christ qui nous rend transparents les uns aux autres, plus nous sommes en Christ, plus nous pouvons être affectés par le péché des autres. C'est-à-dire que ce qui fait que le péché est transmis, est transmissible, c'est que nous sommes en Christ. C'est que nous sommes dans la Trinité. Est-ce que c'est pas un paradoxe? Est-ce qu'on peut vraiment tenir ça? Alors, donc, deuxième étape, Rahner. Rahner, parce que vous allez voir qu'il précise la notion de péché. Je pense qu'il n'y a pas les mêmes difficultés qu'avec Bulgakov. Et puis, il assume ce paradoxe complètement. et il en fait son point fort. Alors, pour Rahner aussi, le point de départ est philosophique, mais il propose non pas l'unité de nature, il propose une nouvelle manière de penser l'unité à partir de l'entrelac des libertés. L'entrelac des libertés. Le raisonnement, bon, c'est pas la seule chose, mais je vais pas entrer dans... Il y a d'autres arguments philosophiques, mais l'argument principal, c'est l'imbrication des libertés humaines. Et qu'est-ce qu'il veut dire? La liberté n'est pas un absolu. Notre liberté agit toujours en situation. C'est ce que Kant disait déjà, il prenait cette belle image de la colombe. La colombe qui vole pense que l'air résiste et la ralentit, mais en fait c'est l'air qui lui permet réellement de voler. Et c'est la même chose, notre liberté a besoin des situations qui résistent, mais qui vont lui permettre de s'exercer. Une liberté absolue n'existe pas, ou est difficilement pensable. Mais Rahner explique, cette situation n'est pas simplement une situation matérielle, c'est aussi une situation spirituelle. C'est-à-dire que tous les actes et toutes les volitions surtout, posées par d'autres, avant nous ou en même temps que nous, ceux-là, ces volitions sont la situation de notre liberté. Sont la situation de notre liberté. Et du coup, alors il donne comme exemple, l'exemple est un peu trivial et en fait dessert un tout petit peu le raisonnement, mais il donne l'exemple de l'achat d'une banane ou d'un comment on appelle, c'est pas une grappe, ça se vient comment, un régime de banane, voilà. Vous voyez que j'achète pas beaucoup de bananes. Il dit, lorsque vous achetez un régime de banane, en fait, dans ce régime de banane, il y a toutes les décisions qui ont été prises, notamment la décision qui a spolié le producteur à la base, le moment où une multinationale a acheté de manière injuste les bananes, et nous, en achetant ce régime de bananes, nous assumons aussi ces décisions. Et Rahner précise, ça veut dire que nous assumons pas simplement des actes, mais nous assumons des volitions, nous assumons des vouloirs. Et donc, je vais citer Rahner, ça sera au moins une citation, « La liberté s'approprie inévitablement le matériau en lequel elle se réalise, et elle se l'approprie comme moment intérieur constitutif et originairement codéterminé. » Et une autre citation forte, parce que justement, c'est ça qui va permettre de penser la transmission d'un péché, c'est que la faute d'autrui a signification, elle est un moment permanent de ma volition. Elle est un moment permanent de ma propre volition. Alors, par contre, pourquoi est-ce que je disais au départ que c'était une précision par rapport à Bulgakov? C'est que Rahner ne va pas dire qu'on assume la faute d'autrui, mais on assume une situation. On assume jamais une faute, on ne peut pas recevoir une faute de la part d'autrui. Par contre, on peut assumer une situation qui va incliner ma volonté. Et du coup, le péché originel n'est pas, bon, ça paraît évident, mais n'est pas un péché personnel. Et ce n'est un péché que par analogie. Ce n'est un péché que par analogie. Mais bon, alors on peut garder le mot péché parce que c'est une réalité intérieure. C'est pas simplement les structures extérieures de péché du monde. Il y a vraiment quelque chose qui touche à l'intérieur de ma volonté. Mais ça reste une toute autre nature que la faute, que le péché personnel. Et le péché personnel, c'est le moment où j'assume ce péché-là. Mais la difficulté, pour le moment, on est encore, même si on parle du péché originel, en réflexion philosophique. Entrelac des libertés. Rahner n'est pas satisfait. Rahner n'est pas satisfait, je pense qu'il a raison. Il dit, comment est-ce possible que non seulement ce péché touche tous, mais qu'il soit si permanent, si indépassable, et comment se fait-il que chacune de nos volitions, chaque acte de notre liberté est entaché? Pas simplement. Pour lui, l'entrelac des libertés permettrait d'expliquer en général une sorte de transmission de situation, Mais pourquoi est-ce si profond? Pourquoi est-ce si profond et si radical? La réponse, c'est que, en réalité, le péché d'Adam, le péché des origines, pour ne pas avoir besoin de dire une seule personne, le péché des origines, c'est le refus de la grâce. C'est pas simplement une faute commise, c'est le refus de la grâce. Or, pour Hanner, et j'espère pour nous tous, ah oui, mais remarque, non, peut-être que je généralise trop, puisque c'est quand même une question. Pour Hanner, le fondement de la liberté naturelle, c'est la grâce. C'est-à-dire que nous avons une liberté naturelle, mais elle n'est pas possible en dehors du régime de la grâce. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? C'est-à-dire que la nature... Je suis désolé, je vois un mélange dans le public. C'est bien sûr, nous sommes naturellement en mouvement vers le bien, vers le vrai, mais profondément, ce mouvement est soutenu par la grâce et n'est réalisable que par la grâce. Et du coup, si on refuse la grâce, on entache chaque acte de liberté. Chaque acte de liberté est touché. Bon, mais ça ne résout toujours pas le problème de comment c'est transmis. Et là, je crois que c'est un coup de génie de la part de Hanner, même si c'est dans un sens presque trop facile. Il dit, la question n'est pas la transmission de la grâce, du péché. La question, c'est la transmission de la grâce. C'est-à-dire, dans le dessein de Dieu, nous avons reçu comme tâche, comme devoir, comme vocation, de transmettre la grâce aux autres. Dans le don de la grâce qui nous est fait, est inclus le don de pouvoir transmettre cette grâce. Et Adam a opéré une rupture. Il n'a pas transmis. Et c'est là, en fait, la transmission du péché. En fait, la transmission du péché, ce n'est pas une transmission de péché, c'est une transmission de rupture de grâce. C'est le fait que la grâce n'est plus transmise. Et je pense que c'est clair. C'est la rupture dans la médiation. La rupture dans la médiation de la grâce. Alors, pour le moment, pour beaucoup d'étudiants et de professeurs de théologie, là maintenant, tout ça c'est devenu classique, c'est déjà classique comme pensée. Mais là où je trouve ça très intéressant pour la question que nous avons, c'est ça veut dire qu'il y a une solidarité très profonde, qui est une solidarité de grâce. La réelle solidarité entre les êtres humains est une solidarité de grâce. Et donc, elle est de grâce et elle est rendue possible par la grâce. Le paradoxe de la grâce, c'est que la grâce est le don à transmettre et la grâce est le don qui nous rend capable de transmettre la grâce. C'est la grâce qui permet de transmettre la grâce. Et après, toutes les autres solidarités s'inscrivent à l'intérieur de cela. Solidarité dans le péché et probablement toutes les solidarités naturelles et sociales s'inscrivent là-dedans. Alors, donc, je pense qu'il y a un pas en avant par rapport à Bulgakov, deux pas en avant. Premier pas en avant, c'est une philosophie de la liberté et non pas une philosophie de la nature. Deuxième pas en avant, on comprend mieux ce qu'est le péché originel. Et, bon, peut-être troisième pas en avant, mais je vais le critiquer, on comprend mieux... Chez Bulgakov, c'était clairement la Trinité et le Christ qui permettaient... la solidarité. Avec Hanner, on comprend que le don de la grâce en Christ est ce qui nous rend capable de transmettre la grâce. Par contre, là où j'ai une interrogation à propos de Hanner, mais ça fera peut-être partie de la discussion, c'est que pour lui, l'antériorité réciproque, la circularité entre l'entrelac des libertés et la grâce, c'est-à-dire entre nature et grâce, il y a une stricte réciprocité. Dans un certain sens, pratiquement chacun des termes apporte autant que l'autre. Chez Bulgakov, c'était quand même le fait d'être en Christ qui permettait d'avoir une solidarité naturelle. Et là, pour moi, il y a une question. Est-ce qu'on peut réellement mettre les deux sur le même plan? Alors, on pourrait discuter, parce que peut-être c'est déjà une interprétation de Hanner. Les textes sont pas toujours si clairs que ça. Et puis après, donc, est-ce que c'est la juste interprétation de Hanner? Et puis d'autre part, est-ce que... est-ce que c'est bon de donner, parce que vous avez compris, je suis en train de dire, je préférais qu'il y ait une antériorité de la grâce. Bon, ça, c'est le... ça marche mieux, d'après moi. Alors, le troisième auteur, qui, à mon avis... Alors, parce que, donc, chez Rahner, il y a cette difficulté-là, ou c'est au moins cette question que j'adresse à Rahner, et puis après, il y a la difficulté qu'on perd ce qui était la richesse de Bulgakov, c'est toute la dimension très explicitement christologique et trinitaire. C'est la grâce. Alors, on sait que la grâce, c'est la grâce du Christ, mais c'est juste la grâce. Avec Balthazar, on trouve le même type de philosophie de la liberté, au moins, on retrouve une philosophie de la liberté, et, mais on retrouve aussi une dimension beaucoup plus nettement christologique et trinitaire. J'ai commencé à 35, c'est ça? Oui. Pour Balthazar, alors vous allez voir, tous les auteurs finalement font la même chose, la même démarche. On commence par la philosophie, puis on se dit à un moment, ça, c'est pas suffisant, donc on passe en théologie. La réflexion philosophique de Balthazar sur cette question est surtout, alors c'est pas simplement l'entrelac des libertés, mais l'entrelac des sujets, l'intériorité mutuelle des sujets. Pourquoi ? Balthazar souligne le fait qu'on pourrait penser que la philosophie moderne présente un obstacle, comme je l'ai dit dans l'introduction. Avoir des sujets autonomes et libres, ça pourrait sembler être un obstacle. Mais non, c'est le contraire, c'est ce qui va nous permettre de nous en sortir. Pourquoi ? Parce que nous devenons pleinement sujets spirituels, et puis dans la réflexion de Balthazar, il ira même jusqu'à dire « nous devenons sujets spirituels » uniquement par les autres. Jamais seul, et c'est même pas une question de ne pas le vivre seul, mais c'est toujours par autrui. C'est devant la différence d'un autre sujet spirituel que, et l'incommunicabilité d'un autre sujet spirituel que je perçois ma propre incommunicabilité, ma propre différence. C'est devant l'intériorité mystérieuse de l'autre que je découvre ma propre intériorité. Et Balthazar souligne que c'est pas, quand on dit découvrir, c'est au sens fort, c'est-à-dire que ce n'est pas une réalité voilée qui se dévoile, mais c'est quelque chose qui n'était pas là et qui advient. Nous devenons intérieurs, nous devenons réellement différents face à la différence et à l'intériorité. Mais le résultat, c'est que l'autre fait partie de moi. L'autre fait partie de ma constitution. Le rapport à autrui fait partie de ma constitution en tant que sujet. Du coup, le rapport à autrui et donc autrui font partie de ma constitution en tant que sujet. Et une citation parmi d'autres. Dans le cogito sum, l'intersubjectivité est déjà incluse a priori. Il existe une présence a priori de l'autre dans chaque sujet humain. Il existe une présence a priori du nous dans chaque sujet humain. Et les conséquences ne sont pas simplement des conséquences religieuses. Balthazar souligne par exemple que du coup l'État fait partie du mouvement intérieur de la constitution de l'individu. Alors, bon, derrière on entend du Hegel. Pour les philosophes parmi nous, quand les auteurs cités sont la philosophie dialogale, on est du Buber, et puis de l'autre côté, c'est Schelling et Hegel. Les deux rails sur lesquels se base Balthazar. Donc, première étape philosophique, voilà, nous avons la condition de possibilité naturelle de la transmission du péché, ou de la transmission de la grâce. Nous sommes intérieurs les uns aux autres. Et alors c'est intéressant, c'est que c'est ce qui va permettre pour Balthazar, maintenant on passe en théologie, c'est ce qui va permettre pour Balthazar l'assomption de l'humanité en Christ. Ça joue des deux côtés. Puisque en moi préexistent tous les autres individus, a priori, et le nous, je peux être assumé par Christ, je peux entrer en Christ. Et du point de vue du Christ, puisque en lui, en tant que personne humaine, il existe tous les autres, il peut, en fait c'est déjà fait, c'est pratiquement déjà fait. Il n'y a pratiquement rien à faire pour qu'il assume l'ensemble de l'humanité. Il faut effectuer ce qui est déjà là de manière comme une prédisposition. Nous sommes prédisposés à être les uns dans les autres et donc en Christ. Et le Christ aussi. Par contre, Balthazar, comme Rahner à un moment, comme Bulgakov, disent « Mais quand même ça va trop loin. » Un simple entrelac des sujets, ce n'est pas... Et Balthazar souligne, surtout pour le péché par exemple, il dit « Le péché est tellement personnel que assumer le péché des hommes, pour le Christ, c'est, je cite, « intervenir dans le domaine privé des autres hommes. On entre dans l'intimité de l'autre. » Personne n'a envie de ça. Non, personne n'a envie que... Même pour être sauvé, je ne suis pas sûr. Et Balthazar dit à ce moment-là, ce n'est pas possible, le Christ doit vivre les choses de manière unique. Il a quelque chose que les autres hommes n'ont pas. Et là, on retrouve Bulgakov, donc ça va être relativement simple, et je ne m'étends pas, c'est parce que le Christ est une personne trinitaire, et parce que dans la Trinité, là c'est vraiment le même argument que Bulgakov, parce que dans la Trinité, les personnes trinitaires sont les unes dans les autres, parce que les personnes trinitaires sont relations, et ne sont pas simplement en relation, alors il est possible que le Christ fasse cela. Il est possible que le Christ fasse cela. Alors là où Balthazar apporte quelque chose que Bulgakov n'apporte pas, c'est que il développe le thème d'un point de vue eucharistique. C'est-à-dire, pour Balthazar, la manifestation la plus haute de la manière dont la personne trinitaire vit, ou existe plutôt, c'est quand le Christ ressuscité institue l'Eucharistie, et surtout, parce que c'est beaucoup plus profond que ça, vit eucharistiquement. Balthazar souligne que le corps du ressuscité est capable de se donner aux autres très très concrètement et jusqu'au bout, pour devenir une partie de l'autre, pour être assimilé à l'autre. C'est la plus haute expression de ce qu'est une personne trinitaire, d'être capable d'être assimilé par un autre. Et dans ce mouvement d'assimilation par l'autre, d'assimiler l'autre, parce que bien sûr, les pères de l'Église insistent là-dessus, lorsque nous assimilons le pain eucharistique, parce que pour Balthazar, ce n'est pas que l'Eucharistie au sens du sacrement, lorsque nous assimilons le corps du Christ dans notre vie avec le Christ, nous sommes assimilés, encore plus fortement que nous assimilons. Cela, c'est l'expression dans le ressuscité d'une capacité qui est propre à la personne divine de toute éternité. C'est le moment où on voit ce que c'est que d'être une personne divine. C'est d'être eucharistique. Et un pas de plus que fait Balthazar et que ne font pas les autres, il y a un pas anthropologique en coupe. C'est que nous-mêmes, nous sommes appelés à vivre cela. Nous-mêmes, nous sommes appelés à être eucharistiques. Et nous pouvons l'être parce que nous sommes assimilés par le corps eucharistique du Christ. Et à ce moment-là, nous comprenons comment nous devenons membres les uns des autres. Je cite, « Dans le Christ, nous sommes les uns à l'égard des autres, non seulement des frères de race, mais dans son corps eucharistique, nous devenons membres les uns des autres. » C'est une formule de Paul qui est extrêmement forte, « membres les uns des autres ». Et cela, c'est possible en Christ, parce que c'est ce que vivent les personnes divines. Et donc, il y a toute une série de conséquences sur notre manière de vivre. C'est cela qui nous permet de nous donner les uns aux autres, de nous livrer les uns aux autres. C'est ce qui nous permet de devenir nourriture, c'est une citation d'Origène, mais de devenir nourriture les uns pour les autres, comme le Christ est notre nourriture. C'est cela être personne. C'est cela être réellement personne. C'est de pouvoir vivre eucharistiquement. Et c'est ce qui nous permet... Cette réalité très mystérieuse, c'est de pouvoir participer au salut les uns des autres, porter la souffrance d'un autre, porter même le péché d'un autre d'une certaine manière, en Christ bien sûr en Christ. Mais du coup, je reviens au titre, une solidarité radicale est possible de cette manière-là. Et c'est le fondement de la communion des saints. C'est cela la communion des saints. C'est de vivre cette réalité-là. Balthazar insiste sur le fait que ça n'entame pas la liberté. C'est le contraire même. Nous sommes dans un schéma où la liberté et la solidarité croissent de pair. La communion des saints, c'est un corps où plus nous sommes solidaires, plus nous sommes libres, plus nous sommes libres, plus nous sommes solidaires. Parce que nous pouvons nous donner les uns aux autres et accueillir l'autre en nous. C'est ça la vraie liberté. Je répète, plus nous sommes libres, plus nous pouvons être solidaires, puisque la liberté réelle, c'est de pouvoir se donner et accueillir en soi. Donc, nous croissons en solidarité en croissant en liberté, et donc réciproquement. Voilà, donc Balthazar apporte des éléments qui me semblent intéressants. J'ai un petit problème avec sa conception du péché, mais bon, je vais plutôt conclure, donc je vais pas m'étendre là-dessus. Est-ce que je pense qu'il revient un peu en arrière par rapport à Rahner? C'est moins clair la différence entre un péché personnel et puis un péché originel analogique, puisqu'il parle beaucoup du fait que la faute est portée, la faute est partagée. Et puis, comme Rahner, il y a une circularité pratiquement il y a une antériorité pratiquement réciproque de la nature et du fait d'être en Christ. Il n'y a pas d'antériorité de la dimension théologale. Alors que, quand même, même dans le raisonnement que je vous ai apporté, c'est quand même ça qui permet à la nature d'être aussi solidaire. Donc, au début, je m'étais permis d'annoncer que c'était uniquement un point de départ de recherche. De fait, je pense que c'est juste un point de départ de recherche. Et il me semble que, en conclusion, on pourrait tirer 4 enseignements qui seront en tout cas la suite de ma recherche personnelle, mais les piliers sur lesquels j'aurais envie de travailler. Premièrement, la question doit être abordée et philosophiquement et théologiquement. Il me semble que c'est un des grands apports de ces 3 auteurs, d'avoir travaillé sur les 2 plans, et aucun des 2 plans n'est vraiment satisfaisant par lui-même. On est à un point de croisement d'une question philosophique et théologique. Deuxièmement, alors maintenant je vais regarder, le deuxièmement ça sera que la philo, et le troisièmement que la théologie. Deuxièmement, pour la philosophie, il me semble que les Rahner et Balthazar apporte quelque chose d'assez fondamental, c'est que une philosophie de la liberté n'empêche pas la solidarité, de penser une solidarité, au contraire, donne la possibilité d'une solidarité beaucoup plus radicale et beaucoup plus profonde. Alors bien sûr, il y a des questions qui se posent, c'est-à-dire que Rahner et Balthazar sont des théologiens, et si vous lisez leurs textes philosophiques, surtout Balthazar, ça, c'est quand même pas très très approfondi. Donc il y aurait une réelle, à mon avis, on pourrait vraiment continuer à travailler là-dessus. Et puis peut-être qu'il y aurait une question à se poser sur, parce que là, dans un sens, je ne sais pas comment je vais déjà prévenir une question que vous pourriez me poser. En fait, tout est un peu mélangé. C'est-à-dire qu'il y a énormément de plans qu'on a charriés ensemble. Mais peut-être que même si tout cela se résout à la question de la solidarité et de l'individu, le rapport individu-communauté, probablement il faudrait distinguer des degrés ou même des types de solidarité selon la famille, la société, l'église, même entre péché et salut. On peut pas dire que c'est le même degré ou le même type de solidarité. Donc il y aurait des questions, des précisions conceptuelles à apporter. Donc ça c'est le deuxième point, donc philosophique. Troisième pilier du point de vue théologique. Personnellement, je suis très convaincu par le fait de fonder en Christ et dans la Trinité, donc à partir de la personne divine, des caractéristiques de la personne divine, une possibilité de solidarité entre les hommes. À la fois comme modèle et aussi avec le Christ comme effectivité. C'est-à-dire que non seulement on a un modèle de solidarité, mais c'est le Christ qui le rend possible effectivement. Par contre, là aussi, donc, je pense qu'il faudrait qu'on travaille plus sur une notion plus théologique de personne. Il y a une notion philosophique de la personne qui est bien développée, Et puis, dans les origines, la notion de personne était théologique. Mais on pourrait retravailler la notion de personne, et notamment à partir d'une dimension trinitaire. Mais en faisant attention à ne pas vouloir donner à la personne humaine exactement les mêmes caractéristiques que la personne trinitaire. Et il faut garder l'analogie. Donc là, c'est vraiment quelque chose qui est assez délicat. Puis il y aurait peut-être d'autres questions théologiques qu'on pourrait se poser. Il y a peut-être des manques dans ce que je viens de présenter. Et puis quatrième point, quatrième pilier. Donc premier pilier, c'était et philo et théologie. Deuxième pilier, des commentaires sur la philo. Troisième, c'était des commentaires sur la théologie. Troisièmement, alors, maintenant, quel est le bon rapport entre philosophie et théologie? Et vous avez compris, je pense que Bulgakov a raison, c'est que il faut probablement penser que c'est la solidarité théologale qui fonde la solidarité naturelle. Alors bien sûr, il faut aussi pouvoir penser la solidarité naturelle pour elle-même, parce qu'elle est condition de possibilité. Il y a quand même une réelle antériorité mutuelle, mais dans cette antériorité mutuelle, je ne pense pas qu'il y a une réciprocité parfaite, une symétrie pure. Je pense qu'il faut avoir une priorité à la grâce, ou une priorité au Christ et à la vie trinitaire. Et de fait, les questions, le point de départ du questionnement n'était pas naturel. C'est-à-dire, le point de départ du questionnement, c'était comment, quand Paul persécute un chrétien ou un pauvre, un petit, le Christ est touché. Comment est-ce que le Christ meurt pour nous? C'est le Christ, en fait, qui réveille la question. Et bien sûr, après, on a aussi besoin d'y réfléchir philosophiquement, mais on a besoin de rendre à Christ le fait qu'il nous pose la question, et peut-être que c'est justement lui qui, j'aime pas dire résout la question, mais qui donne la piste de solution à la question.
Voilà, nous avons plein de questions en tête, plein de réflexions Courage. Possibles. Merci beaucoup pour ce parcours, en tout cas, qui nous dit les différents aspects possibles d'une question complexe et importante pour aujourd'hui. Comment penser ce rapport? Comment penser l'individu, la personne? En philosophie comme en théologie, le rapport individu, le rapport à l'autre, c'est un point central. Il y a plein de façons d'articuler individu et l'autre aujourd'hui. Au passage, il ne parle pas seulement de structure de péché, mais de péché structurel. Justement, lui, il qualifie le péché de structurel, en tout cas dans un certain aspect.
Oui. En fait, oui, je suis d'accord. et tout bêtement, si je dis que... Pour moi, en tout cas, il faut continuer à travailler sur la question sur les degrés, c'est que j'ai pas encore assez travaillé sur cette question, donc je pense vraiment que c'est une question importante. Par contre, juste quand tu disais il y a des degrés dans l'entrelac des libertés, c'est vrai que ça va pas dans le sens de ce que disait la fin, qui est, à mon avis, très fondamentale et très juste, mais de fait, Rahner assume complètement le paradoxe, c'est que plus on est dans la grâce, plus on est effectivement sensible au péché. Mais il assume entièrement. Mais sensible au péché, ça peut vouloir dire aussi d'y résister. C'est-à-dire que ça donne aussi cette capacité de résistance. Mais je pense que ce qui est très intéressant dans ce que tu as dit, c'est la question là, de voir aussi à partir de l'angle de la résistance. Et là, il faudrait, pour moi en tout cas, que j'y réfléchisse plus. Donc oui, merci pour la piste.
Et la distinction entre l'intersubjectif et l'institutionnel.
Oui.
Ça, c'est quand même aussi une question de fond.
Mais je pense que c'est très important qu'on retrouve une pensée du nous. On a une pensée de l'intersubjectif, mais on n'a pas encore retrouvé ce que Hegel a su faire de manière géniale, mais aussi avec beaucoup de risques, c'est de réellement penser le nous et de réellement penser l'institution. Et on a besoin de réussir à retrouver ça.
Ouais. On pourrait d'ailleurs se poser aussi la question à l'inverse, c'est-à-dire c'est une pensée de la création aussi qui est au départ. Parce que quand tu parles de la nature, en fait, de quoi parle-t-on? Enfin, la nature, elle est déjà théologale. Donc, elle est déjà marquée par la grâce. Quelle est l'antériorité que tu cherches?
En fait, c'est presque tout ce que j'ai dit était évident. C'est-à-dire si on réfléchit sur le rapport nature et grâce, au moins tel qu'on l'a réfléchi au XXe siècle ou après de Lubac, etc., on voit clairement que on est en train de penser, puis c'est déjà ce que disait même Thomas d'Aquin, c'est-à-dire que l'homme est créé dans l'état de nature, l'état intègre avec la grâce. La grâce est toujours première. La grâce est vraiment toujours première. De fait, donc c'est une c'est-à-dire que penser la nature humaine, c'est penser quelque chose d'autre qu'une autre forme de nature, dans un certain sens.
Différents types de grâce, peut-être. C'est encore une autre question. Ouais.
Donc, je ne sais pas si mon dialogue va être vif avec vous, mais je retiens trois choses que vous avez dites qui me semblent vraiment fondamentales, dans l'ensemble, mais c'est, j'avais pas pensé à l'image de la vigne, en fait. Mais c'est effectivement, c'est une image qui correspond très très bien à ce que j'essaye de dire. Donc merci pour cette image. Et les deux autres points qui me semblent fondamentaux, c'est d'une part, ce que j'entends dans ce que vous avez dit, c'est aussi le fait que non seulement c'est le Christ qui nous unifie, nous purifie, mais on a besoin de travailler. De se laisser travailler. C'est-à-dire que il y a un moment où on a à... Oui, et donc accepter que les autres fassent partie de nous-mêmes, c'est ça. Mais oui, alors sur les deux premiers points, tout à fait. Il fallait juste faire un choix, mais c'est sûr que de Lubac entrerait bien et le personnalisme aussi. Mais comme ma question c'était de me situer entre philosophie et théologie. Je voulais vraiment prendre des auteurs qui... Mais de toute façon, oui, absolument. C'est très intéressant la deuxième remarque sur Prosopone et la parole. Surtout que l'acteur parle au nom d'autrui aussi. Ça veut dire que dès le départ, il y a cette capacité de parler au nom d'un autre qui joue aussi. Bon, ça c'est juste une réflexion, je ne sais pas exactement quoi en faire. Et sur le langage, oui, le langage... est profondément personnel. Accéder au langage, c'est quelque chose de personnalisant. Et le langage lit. Mais ce qui est intéressant, c'est que le langage est aussi reçu. Et que le langage est une réalité que nous recevons du groupe et dans lequel nous entrons. Et après, nous apportons notre propre pas modification, mais l'expression de ce langage. Oui, certainement. Mais donc il y a trois étapes presque. Il y a l'étape de lien donné. Il y a l'étape de personnalisation et il y a l'étape de lien construit. Du coup, c'est effectivement très très complet comme concept. Oui, j'ai évoqué ça et je pense que c'est vrai qu'il y a une tension culturelle entre l'Europe ou l'Occident, disons, et puis pratiquement le reste du monde sur cette question. Mais il me semble que c'est très important de voir que les deux sont des trésors. C'est-à-dire, si on prend l'idée de famille, par exemple, le fait de pouvoir se marier librement avec quelqu'un qu'on aime et le fait d'être indépendant par rapport aux décisions prises par son père ou sa mère, c'est quand même fondamental pour pouvoir construire un noyau familial solide et beau. Bon, d'un autre côté, si on n'est que le noyau familial comme dans une famille occidentale, on perd une richesse incroyable de relations et je pense qu'en fait le noyau ne tient plus. On a vraiment besoin la famille élargie est aussi un trésor d'avoir des oncles, des tantes, d'autres enfants pour une famille, c'est quelque chose de très fort. Le problème c'est que si on a seulement un des deux pôles, si on a que la famille élargie, il y a vraiment un risque de perte de l'individu et de l'amour libre. Si on n'a que le noyau familial, il dépérit. Il dépérit parce qu'il a besoin de ce corps plus large. Et on n'arrive pas à tenir les deux ensemble. C'est difficile. Bon, en fait, c'est très intéressant. J'ai rien à dire sur l'angle mort. Je pense ça vraiment intéressant. Par contre, c'est vrai que c'est frappant de voir que les brebis font quelque chose et les boucs ne font pas. Et donc c'est exactement du runner, là, je suis désolé. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui font, qui transmettent, et ceux qui ne transmettent pas. Et il n'y a pas. Et l'autre chose, bon, c'est pas la même question, mais par association d'idées, pour bien montrer la non-symétrie entre le bien et le mal, sur le côté sud de la cathédrale de Chartres, il y a la scène de Matthieu 25. Et ce qui est très intéressant, c'est que on voit ceux qui vont vers l'enfer, ils y vont seuls. Alors que ceux qui vont vers le ciel, ils sont conduits par des anges. Et en fait, il y a la grâce qui conduit certains et les autres n'ont pas la grâce. Et c'est pas forcément qu'ils sont poussés par des démons, mais ils n'ont pas la grâce, ils n'ont pas les anges qui les conduisent, ils s'y conduisent seuls. Donc c'est pas la même question. Hein, mais c'est... Et de fait, même vis-à-vis de Dieu, c'est-à-dire que la vision traditionnelle de l'enfer comme étant coupure de relation avec Dieu, je ne pense pas qu'elle soit très exacte. C'est plutôt qu'on reste en relation radicale, profonde, de tout notre être avec Dieu, mais en le refusant. Et alors, c'est infernal. et donc, de fait, c'est la relation est ce qui va faire jouer dans un sens ou dans l'autre la situation de la personne. Ouais. Non, mais c'est une très bonne piste. Ouais. Je pense effectivement c'est une limite des trois auteurs. Même Bulgakov parle pas énormément de l'esprit. Ouais. Quand même il en parle, mais tout le monde parle d'une unité trinitaire, d'une unité christologique, mais il manque cette question de lui. Et du coup, il me semble que on devrait non seulement penser des différences de solidarité ou de lien entre famille, communauté, église, entre grâce et péché, etc. Mais probablement, ça pourrait être intéressant de penser des différences de type d'unité selon les personnes divines avec lesquelles on est en relation. C'est-à-dire que la relation, le Père est unité comme source, le Fils est unité parce que nous sommes intégrés en lui. Alors l'Esprit... Peut-être que c'est l'esprit qui plus que d'autres, mais là c'est vraiment très très intuitif. Peut-être que l'esprit qui plus que d'autres est celui qui permet une unité dans la liberté, une unité qui respecte la liberté de chacun. Mais de fait, je pense que ça fait partie des questions théologiques à approfondir clairement. On ne peut pas penser une unité même vis-à-vis de l'institution, parce que souvent, bon, je sais que c'est pas forcément la meilleure manière de penser, mais souvent on pense l'Église institutionnelle du côté du Christ et l'Église pneumatique du côté de l'Esprit. C'est pas une très bonne manière de faire de l'ecclésiologie, mais en même temps, ça veut dire que on a vraiment besoin de cette complémentarité de l'Esprit et du Christ pour penser un lien entre les hommes qui tiennent l'institution et qui tiennent la liberté. Peut-être trop facilement maintenant. Et donc, la société ne va pas s'en sortir sans l'Église, mais elle n'a pas besoin de devenir l'Église. Je ne sais pas si je suis clair. Oui. C'est-à-dire, je pense que profondément, face à la réalité spirituelle du mal et du bien, il y a besoin du niveau théologique ou religieux, ou je ne sais pas comment. Mais on n'a pas besoin que tous entrent là-dedans. C'est-à-dire que la philosophie a vraiment des ingrédients solides ou le régime naturel a des ingrédients solides pour construire quelque chose qui tienne et qui soit durable.
On pourrait dire aussi qu'il n'y a pas de philosophie sans dialogue avec aussi la théologie.
C'est vrai. Mais tout à fait. Tout à fait.
Oui, Alain.
Oui. Tu veux que j'essaie de répondre? Parce que, de fait, ça fait des années que je pense à ça, et tous les 6 mois, je change d'avis. Donc, non mais... et là où j'en suis actuellement, c'est de dire, il n'y a pratiquement pas de différence, sauf les Écritures, ou le rapport aux Écritures. C'est-à-dire que, il me semble que la différence fondamentale, c'est que la théologie, c'est la sacra pagina, comme disaient les médiévaux, c'est l'explication de la révélation dans les Écritures, et les Écritures sont prises comme Écritures. Par contre, la philosophie a un rapport aux Écritures, mais pas comme révélation. Ou pas comme, disons, elle peut intégrer que c'est une révélation. Oui, d'accord. Je pense qu'elle peut l'intégrer en tant que révélation ou révélation possible, mais pas comme étant l'absolu de la révélation. Et oui, oui. Mais de toute façon, on a le même problème. Oui. Mais tu as l'impression que Kierkegaard commente les Écritures? Oui. Alors que, il me semble que les théologiens, même s'ils ne le savent pas, et qu'en fait, de facto, ils ne le font pas, devraient être en train de faire ça. Et souvent, en fait, sont en train de le faire. Et tous les autres types de discours qu'ils font servent à cela. Tandis que le philosophe qui pense même, comme Kierkegaard, dans le régime de la foi, ne va pas être en train de commenter les Écritures. Il va être en train de réfléchir sur, Origène dirait sur la parole de Dieu qui est le monde créé. Non, ça te satisfait pas ? Moi non plus en fait, mais c'est quand même ce que je trouve de moins mauvais pour le moment.
Quand même. Mais le rapport à la tradition n'est pas le même.
Oui, c'est... Qu'est-ce que...
Alain, on peut peut-être dire quand même, le rapport à la tradition n'est pas la même, ce que dit...
En tout cas, je disais, mais pour revenir à ce... Attends, parce que là, ils sont partis en discussion. Non, mais c'est vraiment intéressant, ça m'intéressait de vous entendre. Et c'est surtout que, là où je suis complètement d'accord avec Alain, donc il posait la question, c'est quand tu dis, le philosophe peut tout à fait intégrer tout. Ça, j'ai aucun problème avec ça. C'est pour ça, pour moi, ce n'est plus une question de limite à tracer. C'est pour ça que je reste, c'est la question du rapport aux Écritures et qu'est-ce que je suis en train de faire? Est-ce que je rencontre des Écritures, je commente les Écritures, même en étant très éloigné des Écritures, ou bien est-ce que j'essaye de rendre compte d'une réalité qui se présente à moi? Oui. Oui, le problème, c'est que l'origine de la philosophie était quand même la question du salut. Et Spinoza encore. En fait, il y a beaucoup, beaucoup de philosophes qui ont encore ça. C'est vrai que c'est face... Bon, je ne sais pas, peut-être que la théorie de Pierre Hadot sur la manière dont... on peut discuter, mais il me semble que c'est vrai que la philosophie a parfois perdu cette idée-là, mais c'est quand même dans son ADN, le salut. Alors, la différence, c'est que dans un sens, le théologien, il travaille sur un salut donné. Il est réel. Vous avez plusieurs fois remarqué peut-être que quand je parle du Christ... C'est effectivité. Pour moi, ça, c'est vraiment une des caractéristiques du Christ, c'est que c'est pas simplement qu'il est possible d'être sauvé ou qu'il est possible, c'est que voilà l'effectivité. Même par rapport à la question beaucoup plus aussi, une grosse question aussi entre Ancien et Nouveau Testament. Si on pense en régime de continuité, les deux, quel est l'apport du Christ? C'est effectif. C'est le salut est donné à ce moment-là. Et pas simplement annoncé ou... Mais bon, on a résolu la question philosophique.
Voilà. On a au moins résolu une question. Il en reste 25 derrière. Voilà, mais écoutez, on va remercier beaucoup Étienne pour toutes ces réflexions bien stimulantes. Merci. On attend la suite de la réflexion. Alors, je disais tout à l'heure que tu allais publier un livre sur, on espère, l'Esprit Saint.
Oui, il y a un livre qui est chez un éditeur sur l'Esprit Saint. Ah oui, donc ça va peut-être...
C'est la suite.
Ça va être la première réponse à la question d'Isabelle. Oui.